Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Je veux pas d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un sous-genre du cinéma, alors, qu'on rattache souvent au cinéma horrifique, mais qui peut toucher plusieurs genres. Hein. Il y a des comédies réalisées par exemple dans ce genre-là. Je veux parler du found footage, littéralement des prises retrouvées, des enregistrements retrouvés. Alors... Aujourd'hui, on va explorer ce sous-genre du cinéma en se consacrant à quelques films un peu mythiques du genre. On va faire un peu notre top 5, notre top 10, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans le found footage. On va essayer de vous parler de pas mal de choses, parce qu'il y a quand même aussi des sagas, hein, Paranormal Activity, la saga Rec, il y a des films aussi qui ont quand même un peu marqué leur époque, par exemple The Bay de Barry Levinson, qu'on peut trouver chez ARP Sélection ou disponible sur Shadows, Making of de Cédric Dupuis, disponible chez Asylum. Enfin, on va vous parler de tout ça on va développer sur tous ces films, on va essayer de vous faire aimer le found footage. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com et sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Et cette revue, elle est également disponible chez tous les bons libraires. Pour causer du found footage. Je suis accompagné de celui sans qui cette série d'émissions, parce qu'on va faire deux émissions sur le found footage, hein, la semaine prochaine, on vous réserve une petite surprise, on aura un réalisateur de found footage avec nous. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Damien Demey, celui que l'on surnomme la bête noire de Compiègne, cet archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, mais aussi en quête de found footage oublié, hein, puisque c'est un grand fan de ce sous-genre. Également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud et donc présent dans ce studio. Nous le saluons. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent et qui nous ont retrouvés.
J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir.
Le found footage. Mais que signifie donc cette anglicisme? Eh oui, on va encore nous reprocher d'utiliser de l'anglais. Alors, d'autant plus que là, on pourrait franciser le nom, mais c'est l'appellation anglo-saxonne qui est restée, c'est-à-dire found footage, qu'on peut traduire par image retrouvée, enregistrement retrouvé, voilà, enfin trouvé très exactement, puisque c'est found. Et la plupart du temps, en fait, ça désigne des films qui mettent en scène des bandes vidéo ou de la pellicule, enfin, qu'on a retrouvé et qui contient. Et qui contient donc des images très souvent de personnes qui ont connu un sort assez catastrophique, voire horrible même d'ailleurs. Hein, et la plupart des héros, entre guillemets, des protagonistes, en tout cas des found footage, ont eu un destin assez peu enviable, hein, comme on va le voir dans cette émissions, dans cette série d'émissions même, la plupart des amateurs font remonter le found footage à 1999 et au projet Blair Witch. C'est à la fois vrai et pas vrai. Disons que le film rencontre un gros succès commercial. C'est aussi le premier film... ça raconte une histoire de malédiction dans une forêt, voilà. Il y a Witch dans le titre, je vous rappelle, donc on vous en dira pas plus. Je pense que vous l'avez presque tous vu. Mais en fait, ce film, c'est un peu la formule magique et c'est un peu le film matrice qui va amener... au cinéma horrifique un peu du 21e siècle, entre guillemets. Je ne veux pas dire que c'est le cinéma, mais en tout cas un sous-genre très ancré dans le début du 21e siècle. Et on en parlera d'ailleurs, qui tend à s'essouffler aujourd'hui, qui a pris d'autres formes en tout cas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le projet Blair Witch va articuler, c'est un des premiers films à faire ça, c'est un film fauché, fait avec une caméra achetée dans le commerce, très basique, avec une esthétique du coup très particulière qui aujourd'hui lui donne presque un aspect expérimental quand on le revoit aujourd'hui sur des écrans numériques, et qui voit une bande de jeunes partir dans la forêt pour découvrir si la malédiction dont on parle est réelle, elle existe vraiment. Évidemment, ils vont y être confrontés, disons, c'est pas marrant, avec sorte de jeu de piste macabre et petit à petit des indices qui vont les amener à être confrontés à l'indicible, au terrifiant. L'indicible aussi parce qu'on n'a pas de budget. Donc, c'est plutôt bien amené, bien mis en scène. Et en fait, ce film-là, le projet Blair Witch, être l'un des premiers à articuler un Internet qui commence à se démocratiser, où on va utiliser, on va répandre d'abord sur le net des petites vidéos, des petits reportages sur cette légende. On va faire comme si elle existait, on va créer des sites pour parler de cette légende. Et puis, on va finir par faire ce film qui, du coup, est un peu vendu comme un film qui se serait réellement déroulé. Évidemment, c'est pas pour de vrai, hein. Mais du coup, on fait souvent démarrer la grande vague du found footage à cette époque-là. Mais les plus anciens vous diront que le found footage, ça démarre bien avant. Y a d'abord, parce que les deux sous-genres entretiennent beaucoup de liens, le documentaire. Le documentaire qui vient au tout début avec les travaux. Bon, par exemple, on peut penser au... Bon, il y en a un qui est connu, c'est Spinal Tap de Rob Reiner. Mais surtout, on va dire que l'avant-gardiste britannique Peter Watkins, avec Punishment Park, par exemple, va amener comme ça ces films tournés comme des documentaires qui en fait n'en sont pas, qui sont des films qui décrivent des situations qui n'ont pas réellement eu lieu, mais qui ont l'air d'avoir eu lieu. Voilà, donc c'est d'autant plus troublant, sachant que beaucoup plus tard, Peter Watkins poussera le vice jusqu'à reproduire La Commune, La Commune de Paris, hein, mais en faisant jouer ses acteurs avec un minimum de scénario pour voir s'ils reproduisent les attitudes qu'ont eu les communards à l'époque, s'ils reproduisent, et ça marche, ils refont la même chose que les communards d'époque. C'est assez fascinant, c'est long, hein, mais voilà, tout ça c'était sorti chez Dorian Film en DVD, je me rappelle, et je me suis bien éclaté, La Bombe, tout ça, enfin, c'est des films super intéressants qu'on avait pu découvrir en France beaucoup grâce à Gilles Boulanger et à l'Étrange Festival. Il nous avait fait découvrir ça il y a de cela des dizaines d'années. Je sais, je ne vous dirai pas mon âge. Et puis, le film qui est pour moi le plus proche du found footage typique, qui lance pour moi vraiment la vague, puisque c'est un film horrifique, le found footage est quand même plus globalement rattaché au film horrifique. Je sais qu'en France, il y a une comédie comme Babysitting ou il va y avoir Projet X aux États-Unis, mais disons que le film vraiment qui lance tout ça, pour moi, c'est un film italien de 1980 de Ruggero Deodato, qui vient de nous quitter d'ailleurs, et qui est le fameux Cannibal Holocaust, où des journalistes, on retrouve des bandes de journalistes qui sont allés, qui sont partis à la recherche de reporters disparus dans la jungle. Et bien sûr, la première partie, on a l'expédition, tout ça, et puis
La seconde partie, bah, c'est moins rigolo parce qu'ils sont confrontés aux, comment dire, aux autochtones qui sont des cannibales, évidemment, sinon ça ne s'appellerait pas Cannibal Holocaust. Et ils en prennent plein la tronche. Un film quand même qui avait fait très forte controverse à l'époque, puisqu'on y tuait des animaux pour de vrai. Il y avait des scènes de maltraitance animale. Le film a quand même été interdit dans une soixantaine de pays, dont l'Italie, d'où son culte hein, incroyable. Et Ruggero Deodato, enfin des membres de l'équipe, enfin, il y en a qui ont été condamnés, hein, il y a eu des procès, enfin ça contribué à faire de ce film d'horreur un film culte. Et c'est vrai, pour l'avoir vu peu de temps après sa sortie à l'époque, que je peux vous dire qu'on était assez terrorisés par le film, qui avait un côté vraiment très, très comment dire, et à la fois un côté putassier, mais aussi un côté peu ragoûtant, assez effrayant. On se demande comment tout cela va finir. On est pris dans l'ambiance, alors qu'en fait, quand on regarde bien, la mise en scène est trop léché, trop travaillé pour être vraiment... parfois, il y a des chants contre chants, des choses comme ça. Ça ne peut pas matcher, en fait, si tu fais si tu filmes caméra à l'épaule, ça ne peut pas être filmé comme ça. Mais ce n'est pas grave, à l'époque, on marchait vraiment dedans. Et ça, Damien, je pense qu'on peut dire que c'est le premier found footage. Le film sera copié, puisqu'il y avait eu les Mondo aussi. Les Italiens vont faire aussi beaucoup de Mondo. Les fameuses séries des Face à la mort, Mondo Cane, qui sont des films un peu crapoteux, où on vous fait croire que vous allez voir des morts en direct, des choses comme ça. Ou alors, on prend des images, on les sort de leur contexte, on caricature. Il y a eu plein de Mondo, par exemple, sur la France, avec des femmes qui fument, des femmes faciles, et voilà, avec tous les clichés qu'on pouvait véhiculer sur la France. Voilà. Mais il y a ça pour tous les pays, Africa, Adio, tout ça, enfin, des choses assez peu ragoûtantes, mais bon... des œuvres qui, néanmoins, n'en demeurent pas moins intéressantes dans ce qu'elles racontent de la société au moment où elles ont été réalisées. Et puis même sans les intellectualiser, c'est aussi des œuvres faites pour faire du fric, quoi. Voilà, il n'y a pas non plus à chercher midi à 14h. Bon, parce qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à tout intellectualiser. Dans les mecs qui faisaient du bis italien, ils voulaient juste... faire des films un peu racoleurs pour faire venir du monde dans les salles, quitte à véhiculer des clichés, ça les gênait pas plus que ça. Mais disons qu'il y a tout cet aspect-là qui va faire un petit filonner en Italie. On a eu la secte des cannibales de Lenzi, on a eu le cannibale férox aussi de Lenzi, avec ce plan assez terrifiant de cette femme pendue par les seins à des crochets. Assez peu reprennent en fin de compte l'idée des prises, des prises retrouvées, des prises perdues qu'il y avait dans Cannibal Holocaust. Et effectivement, le film qui va vraiment relancer cette idée et qui va rencontrer un succès phénoménal, bon aussi parce qu'il n'avait pas coûté très cher, c'est, mon cher Damien, le projet Blair Witch, qui va ouvrir la porte à tout un univers. Voilà, alors là, c'est même plus un filonné, là, c'est même plus un filon. Il va y avoir du found footage partout dans le monde, avec quand même souvent moins que plus de réussite. Mais tout le monde va s'y frotter, y compris des grands metteurs en scène. Vous écoutez Culture Prohibée. Dialogue and singing could be today. Your kingdom is coming today. Can't take it easy.
can't turn back. Look at your passage, look at it all. You're back. Just look back, back again. You want it all, but it's on the run. The sky will open.
C'est vraiment deux films qu'il faut mettre plus ou moins face à face, Cannibal Holocaust et Projet Blair Witch. Parce que Projet Blair Witch a beaucoup pris indirectement de Cannibal Holocaust. Déjà, comme tu as dit, derrière Cannibal Holocaust a enfanté quelques enfants, mais ils ont plus choisi finalement la thématique que la forme même, ce qui rendait ce film finalement véritablement marquant. Et déjà à l'époque, lorsque le film sort, les personnes en grande partie pensent qu'il est vrai. Et d'après ce que j'ai compris, il y a eu des procès justement parce que les acteurs n'étaient pas réapparus, et c'était quelque chose sur lequel le réalisateur jouait beaucoup, justement le fait de cacher ses acteurs pour finalement se prendre un procès et montrer à la face des gens qu'en finalement non, tout était faux, ils sont toujours en vie. Et c'est déjà une certaine façon de... Enfin, c'est ce qui donne la force au found footage. C'est un genre qui interroge notre rapport à l'image, mais aussi à la vérité. Ce qu'on retrouve un peu sur tout ce qu'on a eu à travers le temps, les images de cryptides, que ce soit le Bigfoot ou le Loch Ness, ou même l'autopsie de Roswell, qui a beaucoup tourné dans les années 90, début 2000, sur Internet. Et c'est quelque chose que reprend indirectement Blair Witch, justement avec toute sa campagne virale qui est avant, qui va passer à travers Internet, même à la télévision, où il y aura un documentaire qui sera fait sur la ville où se passe l'action. Et Blair Witch fait rentrer quelque chose en jeu qui sera réutilisé plus tard par Paranormal Activity, qui est justement ce côté transmédia. Le fait de ne pas avoir juste un film pour un film, mais de rejouer avec les barrières floues entre le cinéma et la réalité. Ce sont deux films qui l'ont parfaitement compris et qui va lancer plus ou moins la norme. Cannibal Holocaust comme Projet Blair Witch n'ont pas finalement ouvert de porte à cette réutilisation de format, même si c'est des films qui ont beaucoup marqué. Faudra attendre Paranormal Activity, qui va connaître un succès monstre. Ce qui est drôle, parce que Paranormal Activity en fait sort en 2009-2008, mais un an avant on a Romero qui vient avec son Diary of the Dead, et on a Rec qui débarque avant. C'est-à-dire que Paranormal Activity ne marque pas le début, mais ancre finalement cette ouverture face à ce déchaînement de found footage et de documentaire, soit merveilleux, soit vraiment pas très bien.
Après, bon, tout à l'heure je parlais du Mondo, le Mondo ça vient avant, hein, c'est les années 60, 70, c'est avant le Mondo a plutôt, fait partie plutôt des genres qui ont engendrait en fait la monstration ultime, ce qu'on peut voir dans Cannibal Holocaust. Alors c'est vrai que Cannibal Holocaust, comme tu l'as dit Damien, il va pas entraîner, on va voir des films de cannibales, mais on verra pas forcément des films found footage. Par contre, il va y avoir vraiment ces films putassiers, ces mondos. Là, moi, je me souviens que dans les années 80, il y avait une vraie fascination. Il y avait une série qui s'appelait Face à la mort, qui a connu je ne sais combien de suites, qui sortait en VHS, qui était un vrai carton de vidéoclub, hein, et qui montrait, avec des images truquées, certaines vraies, comme cette fameuse image du bonze qui s'immole, et qui montrait, comment dire, des morts réelles, ouais, sans vraiment d'histoire, hein, qui enchaînait des images de morts. Donc forcément, nous questionne sur notre rapport à l'image. On a vu Luca Magnotti, par exemple, dans les années 2010, ce tueur psychopathe qui s'est filmé en train de découper son partenaire, qui avait un égo démesuré, qui l'a tué pour de vrai, qui s'est filmé et qui l'a mis en ligne. Et ça a été un carton de vues sur Internet. Et même quand les pouvoirs publics essayaient d'effacer la vidéo, il y avait toujours des vidéos de Luca Magnotta qui tournaient. Enfin, il n'y en a qu'une, hein, de toute façon, de son meurtre. Donc c'est effectivement très questionnant, en fait, sur le rapport à l'image qu'entretient le public, puisque on nous confronte quand même là au tabou ultime qu'on peut montrer au cinéma. Alors non seulement la mort, mais en plus la mise à mort, c'est encore plus horrible. D'ailleurs, je pense que Cannibal Holocaust, son interdiction, bon, il y a tout un délire autour des acteurs qui ont disparu, machin, tout ça, qui tenait autant de la campagne marketing. Il faut pas oublier non plus qu'à l'époque, les films avaient une vie très particulière, c'est-à-dire qu'ils restaient plusieurs années à l'affiche dans les salles, parce qu'il y avait d'abord... Alors c'est valable en Italie, où on parlait de Prima Vision, Seconda Vision, Terza Visione, il y avait des salles des grandes villes, c'est très régionalisé l'Italie, donc on avait les salles des grandes villes, si ça marchait, après on avait ça c'était pour les films un peu mieux vus, on va dire, puis on avait les salles dans les petites villes, puis on avait les salles dans la ruralité, voilà. On avait tout ce tissu de salles en France, c'est pareil, on avait des salles plus petites, éloignées des grandes villes, où on pouvait tomber en 84-85, vous pouviez peut-être voir encore 5 ans après, 4 ans après, Cannibal Holocaust au cinéma. C'est pas impossible qu'il soit programmé. À l'époque, c'était pas, les films avaient une vie très longue. Et puis, c'est aussi un film, il est d'abord sorti, si ma mémoire est bonne, chez Virginia Distribution en VHS. C'est une VHS qui s'est beaucoup, je me rappelle que c'est beaucoup loué à l'époque, des vidéoclubs. Les films avaient une vie dans les vidéoclubs qui était assez longue, et quand le film est sorti, qui était coupé en plus la version Virginia Distribution, après il y a eu d'autres éditions qui étaient uncut, et puis quand il est sorti à l'époque Cannibal Holocaust chez Neo Publishing, quand il est sorti en DVD, ça a été un vrai événement, et le film en fait, il est, bon personnellement moi je trouve que c'est un film surestimé. C'est un film très violent. C'est un film très bien fait parce que Deodato, c'est un bon metteur en scène. Donc, il sait très bien exploiter il suffit de voir La Dernière Maison au fond du parc, tout ça, enfin, d'autres films de lui, même s'il s'en défendait. En interview, c'était un peu un baratineur. Il s'en défendait, il ne voulait pas faire de film malsain, tout ça. Mais en fait, pour le malsain, il était, je trouve, très bon. Très, très bon. Et il arrivait à faire des films qui faisaient vraiment peur, quoi. Voilà, c'était vraiment, pour moi, ça. Il était très fort là-dessus. Il était très fort là-dessus. Alors, résultat, effectivement, le film, s'il a eu beaucoup de mailles à partir avec la censure, en dehors des choses qui étaient montrées, il y a même du viol, tout ça. Enfin, tout y passe, hein, dans ce film. Mais ce qui a occasionné beaucoup de problèmes, c'est les animaux qui ont été torturés et tués pour le film. Voilà. Même si on était à une époque où on était peut-être moins enclin à travailler en direction, à vouloir soulager l'animal de sa souffrance, tel qu'aujourd'hui on peut l'être, et c'est tant mieux. Mais à l'époque, on était moins enclin à ça. Mais enfin, on n'avait quand même pas le droit de tuer et de torturer des animaux pour les besoins d'un film. Voilà. Donc il a eu pas mal d'emmerdes aussi à cause de ça. Et en fin de compte, ça a pas mal aidé le film. Mais c'est vraiment, comme tu le dis, resté un film unique. Quand est arrivé le projet Blair Witch, il y a quand même eu derrière un peu plus de... Alors c'est vrai qu'il y a 6-7 ans où il y a un peu de films... Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, donc les réalisateurs du projet Blair Witch, ils ont un peu l'idée en or avec cette histoire de la sorcière de Blair à Burkittsville. Voilà, c'est l'idée en or, hein, c'est l'idée... Comment faire un film qui coûte pas un rond et puis qui fait flipper et qui génère quand même. Alors selon Wikipédia, le retour sur investissement est de 414 300%. Voilà, c'est-à-dire que c'est un film d'un budget de $60 000 et qui a rapporté 248 639 099 $. Voilà. Donc, imaginez bien que ce sont devenus les rois du pétrole, nos deux amis. Et il y a eu, c'est vrai, pas mal de sous-projets Blair Witch qui ont suivi, mais qui étaient des films plutôt sans intérêt. Donc, il faut attendre, effectivement, que des cinéastes, on va dire, plus chevronnés, s'emparent du phénomène, tel qu'on le verra, par exemple, effectivement, dans les années 2000, vraiment, et dans la deuxième moitié des années 2000, avec des films comme Diary of the Dead, comme Cloverfield, des films qui ont, puis dans les années 2010, on va avoir des films qualitativement très très bons. Bon, moi je suis mitigé sur le film, mais enfin, c'est quand même le haut du panier. Il y a The Bay de Barry Levinson, Chronicle de Joss Trank, que j'aime beaucoup, et des cinéastes plus talentueux qui vont prendre conscience de ce que peut apporter cette façon de filmer. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother.
Diary of the Dead, dont tu parlais, de Romero, est vraiment un excellent film. Et Romero en profite pour... il parle de ce qu'est le net, de ce qui va devenir, en fait. Il a un regard très aiguisé, voilà. Il comprend très vite... comment ça va dévier, comment la sphère, les réseaux sociaux, tout ça peut dégénérer, qu'on peut aller vers quelque chose de très putassier. Cette idée, il anticipe ce dont on parle aujourd'hui en France, quand on parle de médias comme CNews, par exemple, de chaînes d'infos en continu et tout, qui déversent à longueur de journée des contre-vérités, comme Fox News aux États-Unis. Il parle de ça, en fait, dans son film. D'ailleurs, vous êtes, c'est un film très politique, en vérité. C'est aussi un film d'horreur jouissif, mais c'est un film très, très politique, qui raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants en cinéma à l'université de Pittsburgh, qui vont dans les bois tourner un film d'horreur avec leur prof, et puis qui entendent parler à la radio d'émeutes et de tueries à grande échelle. Et y en a qui décident de quitter le groupe et d'aller filmer quelque chose de putassier. Mais ils vont être confrontés à des zombies, évidemment, parce que sinon, on n'est pas chez Romero. Mais et on peut voir dans ce film une critique de l'omniprésence, de l'information dans l'immédiateté, sans réflexion derrière, sans maltraiter, information maltraitée, pas analysée, comment on peut manipuler les images. C'est hyper intéressant. Et moi, je trouve que moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, que moi, je mets dans mes meilleurs found footage avec Cannibal Holocaust et le projet Blair Witch, Diary of the Dead, c'est vraiment pour moi un film qui est d'une très incisif, d'une grande acuité sur la société dans laquelle nous vivons. Par contre, je pense que je sais que toi, on va en parler dans l'émission, mais tu en parlais un peu à l'instant. C'est vrai que en 2009, Paranormal Activity va relancer la mode, hein, de Doren Peli va relancer la mode du found footage. En tout cas, ça va être quasi un blog. Enfin, c'est pas un blockbuster parce que c'est pas produit comme un blockbuster. C'est un tout petit film, mais ils vont reproduire en fait le coup d'éclat de Blair Witch pour un film en plus là qui n'a coûté que $15,000. Voilà. Mais par contre, pour moi, c'est un mauvais film, mais ça va donner toute une série de films. Je ne comprends même pas le succès de ces films, parce que Blair Witch avait des qualités. On reparlera d'Exist, par exemple, de Mirique Sanchez. Ce n'est pas des réalisateurs sans talent, c'est des réalisateurs intéressants. Bon, ça, c'est quand même hyper mauvais, quoi. Et en parallèle, il y avait eu Rec, à partir de 2007, qui est sorti la même année la même année, Rec, le premier, que Diary of the Dead, hein, qui est... Alors, il y a toute une série, il y en a un qui n'est pas un found footage, d'ailleurs, dedans, hein, le dernier. Mais il y a toute une série de films avec derrière, quand même, deux réalisateurs de talent, inégaux, mais de talent, Romé Balaguerro et Paco Plaza, qui sont deux réalisateurs très talentueux, hein, et donc et qui vont faire cette série Rec, dont le premier va être un succès incroyable et qui est tout simplement l'histoire d'une journaliste qui va dans un immeuble pour pareil, on est comme chez Romero, hein, la chaîne d'info, tout ça, qui va dans un immeuble filmé parce qu'il y a des comportements étranges, il se passe quelque chose d'étrange dans un immeuble, voilà, et bah tout ça va dégénérer bien évidemment, et Rec parce que c'est enregistré, quoi. Voilà. Et là, par contre, pour moi, on est dans le haut du panier. Mais Paranormal Activity, pour moi, c'est une hérésie. Je comprends même pas comment ces films ont eu autant de succès, quoi.
C'est vraiment un affrontement entre les deux que j'aime bien, Rec, Paranormal Activity, parce que j'ai pas aimé Paranormal Activity, mais je me suis refait entièrement. C'est ce qui m'a motivé à faire cette émission. C'est parce qu'en fait, j'avais détesté lors de la sortie. Je voyais pas l'intérêt que ça portait. Du coup, je me suis dit que j'allais les revoir maintenant avec tout le bagage que j'avais. Je ne sais pas non plus aimer. Mais l'une des particularités que possède Paranormal Activity, en fait, c'est... ils sont vraiment totalement dans leur format, c'est-à-dire ça raconte l'histoire d'un couple qui sont ensemble et en fait il commence à se passer des événements paranormaux, le mari commence à filmer les différents phénomènes qui se produisent et tout ceci va monter en puissance jusqu'à la fin tragique. Et Paranormal Activity, c'est une saga, si je ne me trompe pas, de 4 films plus une suite qui n'est pas lié à l'entièreté, plus 2 spin-offs, un à Tokyo et un qui s'appelle The Marked One, qui reprend un peu la communauté hispanique. Et l'une des particularités de Paranormal Activity, c'est qu'en fait, c'est un format qui va vraiment se concentrer sur les gens et comprendre le mystère qui les entoure. C'est pas une des priorités, c'est vraiment les phénomènes qui leur arrivent et la façon dont ils paniquent par rapport à ça qui est surtout mis en avant. Et pour comprendre au final toute l'histoire de Paranormal Activity, il faut avoir vu tous les films, il faut avoir vu les 4 films qui finalement va parler de l'enfance des différents personnages.
Le calvaire, voir tous les films, bon, je m'en passerai.
Oui, bon, bah, je l'ai fait, mais c'était différents niveaux d'histoire, mais je pense que je dois être l'une des rares personnes qui comprend l'ensemble de l'histoire de Paranormal Activity, ce dont je me serais bien passé. Et la particularité qu'on a face à Rec, du coup, qui raconte l'histoire d'une journaliste qui fait des tournages de nuit dans les différents services de la ville, que ce soit les éboueurs ou dans Rec, les pompiers qui vont intervenir dans un immeuble où se passent des phénomènes étranges, c'est que dans Rec, on a un film qui se tient normalement à lui tout seul. Le 2 a la particularité de rejouer avec les lieux, vu qu'on se retrouve dans le même lieu que le premier. Le 3 commence en nous vendant un produit quasiment identique, où on comprend que... enfin, l'un des enjeux du premier, c'est qu'il y a un chien qui est malade, qui a mordu ses propriétaires, et du coup, ils ont emmené le chien, mais ses propriétaires n'ont pas vraiment en forme. Et dans le 3, en fait, on a un vétérinaire qui a un mariage, qui a été mordu par un chien, et ça permet de faire le lien. Et à la moitié du 3, on se dit que tout va être filmé à caméra, mais il laisse tomber la caméra. Et en effet, dans le 4, il continue sans la caméra, en y renvoyant quelques références. Alors, Rec est beaucoup mieux... enfin, sur toute la saga, je trouve que ça s'étire un peu, mais il est beaucoup mieux que Paranormal Activity, notamment parce qu'il remet facilement en place ce flou de l'image dont je parlais, parce qu'on a des journalistes qui sont là pour mener justement, faire un travail journalistique, suivre la vie des gens et tout. Là où Paranormal Activity, on est plus sur le phénomène de tout ce qui sera vidéosurveillance chez habitants, y compris les dérives éventuellement pornographiques. Et on a un rapport aux personnes qui n'est pas du tout pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que Rec, c'est un film espagnol, ce qui n'est pas Paranormal Activity. Sauf que le succès de Rec va conduire à ce que la même année de la sortie de Paranormal Activity, on aura un remake américain de En quarantaine.
Pour compléter, on peut le regretter, hein, mais en fait, la saga Rec, c'est vrai qu'elle s'est arrivée au 4e. Enfin, les films ont de moins en moins marché, en fait. Et c'est bête parce que il devait y avoir normalement Rec Origins et Rec 5. Et Rec Origins nous expliquait les origines du virus et la possession de Nina Medeiros par ce virus, donc, ainsi que les expériences d'exorcisme sur celle-ci. Donc je pense que ça aurait pu donner un truc sympa, parce que derrière, il y a un film, un found footage plutôt pas mal d'exorcisme. Je crois que c'est le dernier exorcisme de Daniel Stamm. Tout cela était d'autant plus enthousiasmant que ça partait aussi des expériences d'exorcisme entendues sur le magnétophone par Angela Vidal et son caméraman dans Rec. Donc du coup, ça bouclait bien la boucle. Et pour totalement boucler la boucle, il y avait un Rec 5 qui était prévu, qui était la suite directe de Rec 3. Donc c'était quand même très cohérent tout ça. Bon, ça s'est pas terminé. Bon, maintenant c'est plus la peine puisque la saga est finie. Parce que sans être exceptionnel, c'est quand même une bonne saga. Surtout les deux premiers. Le troisième, que ça commence à patiner un peu. Mais les deux premiers sont vraiment, se regardent d'un bloc. Le deuxième se déroule dans la foulée du premier. C'est le syndrome Halloween 2 dans la saga originelle de John Carpenter. Voilà. Et ça avait un côté, moi je trouve, très très, très efficace, des acteurs très bons. Bon, après, c'est aussi des bons metteurs en scène, donc ils arrivent très bien à saisir aussi les avantages qu'ils peuvent tirer de ce type de format de film. Il y a même la télé d'ailleurs s'en est inspiré pour Si on prend par exemple les documents interdits de, qui étaient diffusés sur Arte, qui était une série, et ça c'est antérieur en plus à Blair Witch, hein, donc la forme, je me rappelle, moi, me terrifiait ces trucs qui passaient sur la 7, à l'époque on disait la 7 d'ailleurs, pas Arte, et après ça a été rediffusé sur Arte, on avait retrouvé des dossiers, des vieilles images noires et blancs, granuleuses, à chaque fois qu'ils racontaient des histoires bien flippantes, le truc à regarder juste avant de te coucher le soir pour faire des cauchemars toute la nuit. Enfin, les gens les plus talentueux ont vite compris l'intérêt qu'ils avaient à utiliser ce type de procédé pour filmer. Don't you go without me. Don't go and leave me when I lie on my side. Feel my heart being crushed, falling through. Écoutez Culture Prohibée. Toi, je crois, Damien, qu'il y a des films qui t'ont peut-être un peu plus marqué. Si on parlait de réalisateurs talentueux, alors si on prend Barry Levinson, par exemple, qui est l'homme à l'origine de la série Oz, excusez du peu, qui est un réalisateur assez réputé, un producteur assez réputé aux États-Unis, signe un film en 2012. À part dans sa filmographie. Alors moi, j'en avais parlé à l'époque de The Bay, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. J'ai mis mes réserves sur le film, parce que vous savez que je ne suis pas un gros fan, moi, de found footage. Mais à la revoyure, c'est vrai, Damien, que le film tient quand même bien la route. C'est quand même, en fin de compte, le haut du panier dans ce sous-genre.
Donner une caméra à un bon réalisateur, normalement, il vous fait un très bon travail. C'est vrai que de voir Barry Levinson faire un found footage, c'est surprenant. Moi, j'avais vu le film avec des amis et c'est récemment, en préparant l'émission, que j'ai découvert que c'était lui qui était derrière ça. Donc, quand je vois le réalisateur de Good Morning England ou de Rayman, qui a eu 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, je comprends plus ou moins ma passion pour ce film. Alors, l'histoire se passe dans une paisible station balnéaire américaine qui voit débarquer des chercheurs français. Ils révèlent que le taux de toxicité de l'eau est anormalement élevé. Le maire refuse de prévenir la population, craignant de créer des mouvements de panique. Et bientôt, les premiers symptômes apparaissent. Une étrange maladie se développe dans toute la ville. L'épidémie s'étend et les habitants sont victimes d'un parasite qui prend le contrôle de leur esprit et de leur corps. C'est un film que je trouve génial, qui entrecroise différentes images, que ce soit les caméras personnel des chercheurs ou des agents de police ainsi que les caméras de surveillance. C'est un film que j'aimais beaucoup vu qu'après Paranormal Activity et avec Rec et Romero, on avait surtout des films en found footage qui étaient soit des zombies, soit des monstres, soit des fantômes ou des esprits. Et ici, on se retrouvait avec un film un peu comme Romero avait fait, assez politique, qui parlait finalement... on retrouve le petit côté zombie avec le côté parasite, mais qui était plutôt à part dans la façon dont c'était rythmé et monté. Alors, fait que j'aime bien, c'est que le parasite s'inspire de l'isopode dit mangeur de langue de poisson, qui est le Cimotoa exiga, qui est un parasite unique en son genre, parce qu'il rentre par les branchies du poisson, se colle à la langue, aspire le sang, le truc bien dégueu. Et une fois la langue atrophiée, elle tombe, et le parasite la remplace totalement. Il se nourrit alors du mucus du poisson, mais il ne tue pas le poisson, en fait. Il n'en prend pas le contrôle, ils vivent en harmonie, ils développent une symbiose tous les deux. Ce qui est assez particulier. Bon, ici, on est dans un film bien plus catastrophique, où la situation dégénère à cause de la température élevée de l'eau. Et au final, on se retrouve avec un found footage écologique, dont l'horreur sert à mettre en avant le danger pour l'humanité du réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait très bien. En 2012, c'était su, mais c'était pas forcément mis encore en avant dans les différents films. Et c'est pour ça, au final, que j'aime bien ce qu'a fait Barry Levinson dans The Bay, c'est qu'on a un grand réal qui fait bien son travail, on a un found footage assez unique avec un parasite et un message écologique, ce qui en fait un très beau film. Enfin, très beau film. Dégueu, mais très bien.
Moi, j'ai toujours les mêmes réserves sur ce film, hein, à savoir que régulièrement, on nous résume ce qu'on vient de voir pour être sûr que le spectateur n'est pas perdu, tout ça. Bon, voilà, je trouve qu'il y a des limites quand même, il faut faire un peu plus confiance à l'intelligence du spectateur. Mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes chocs, il y a quelques moments quand même dont on se souvient bien. Quelques scènes bien dégueulasses d'ailleurs, qui sont assez marquantes. Par contre, ce qui est un peu rassurant, c'est que on a depuis connu le développement d'un virus dans le monde entier. Et ça s'est pas du tout passé comme dans The Bay. Les êtres humains se sont montrés particulièrement dociles et très peu rétifs à tout ce qui leur a été imposé en termes de confinement, et de privation de liberté. Et du coup, maintenant, quand je revois des films comme ça, je suis toujours surpris parce que dans ces films-là, tout le monde est toujours en méga panique, prêt à entretuer son voisin. Mais en fait, l'instinct de survie de l'humanité est quand même plus poussé, en fait, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je veux dire, là, on a été confronté il y a quelques temps à un virus quand même très grave qui a occasionné beaucoup de morts et qui continue d'ailleurs d'en faire sur l'ensemble de la planète. Ça ne s'est pas vraiment passé comme dans les films que l'on voit régulièrement.
Figure-toi, Jérôme, que récemment, il y a une étude scientifique qui est sortie et qui est très intéressante, qui a en fait regroupé toutes les données des différentes catastrophes qu'il y a eu, que ce soit le 11 septembre, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre ou bien les épidémies. En fait, contrairement à ce que montrent les séries et le cinéma, généralement, dans les situations catastrophiques, les humains ne cherchent pas à s'entretuer, mais généralement à céder. Ce qui fait que, contrairement à ce que nous véhiculent tous les médias audiovisuels qu'on connaît, si jamais vous êtes pris dans une catastrophe, les gens vont plus avoir tendance à vous aider qu'à vous trahir.
Comme quoi, il faut parfois garder foi en l'humanité. Parfois la vie c'est mieux que le cinéma quand même, heureusement d'ailleurs, même si on se passerait bien de choper des saloperies de virus, voilà. Mais bon, qui sait, Jurassic Park peut-être pour bientôt, hein. Voilà, en tout cas en termes de virus, malheureusement. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me. What I found, that blue eye. vous écoutez Culture Prohibée spécial Phone Footage. Parler d'un autre film de la même période, là, un peu de 2008, qui est un film qui avait une campagne promo, je me rappelle super, parce que la bande-annonce, quand elle passait au cinéma, on avait tous envie de voir le film sans savoir de quoi ça parlait, parce qu'on ne nous disait dans la bande-annonce que, de ce film écrit par Drew Goddard qu'il y avait des extraterrestres qui allaient arriver sur Terre. Et c'est le film qui a fait connaître... celui que j'ai mis, moi, comme réalisateur du meilleur film de 2022 dans notre top de fin d'année 2022, c'est-à-dire le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, qui a fait connaître Matt Reeves, c'est Cloverfield. Et c'est simple, ça se passe à New York, et il y a une sorte de monstre inconnu qui attaque la ville, comme ça, et c'est tout. Et à partir de là, on a un film qui déjà démontre que derrière la caméra... il y a un metteur en scène largement supérieur à la moyenne, quoi. Y compris, d'ailleurs, qui s'amuse à jouer avec à l'ancienne, c'est-à-dire à retarder au maximum l'apparition du monstre. Alors, il la retarde tellement au maximum que le monstre et sa dangerosité nous explosent à la tronche, si j'ose dire, que vraiment dans les tout derniers instants du film. Et ça donne un film tout en tension, avec des personnages vraiment bien écrits aussi, donc forcément, qui, pour moi, est un film à marquer d'une pierre blanche. En plus, il a donné lieu à d'autres films qui sont très différents, hein, parce qu'on n'est plus dans le fun footage. Hein. Bon, il y en a un qui est intéressant, 10 Cloverfield Lane, The Cloverfield Paradox l'est beaucoup moins, mais en tout cas, qui est un petit phénomène, ce film de Matt Reeves, qui révèle un metteur en scène, qui ensuite va confirmer tout le bien qu'on pense de lui.
Encore une fois, les campagnes virales fonctionnent énormément. Cloverfield, moi aussi, je m'en souviens. Je me souviens surtout, je crois que c'était Universal, la tête décapitée de la Statue de la Liberté qui traînait sur place, qu'ils avaient mis en avant. Personne ne savait à ce moment-là à quoi ça allait servir. Plus tard, on avait eu les images de Cloverfield. Tout le monde avait fait lien. C'est un film très cool. Je le vois un peu comme la version fun footage de The Host de Bong Joon-ho, où on retrouve un peu... la créature est plus petite, mais du coup, elle débarque aussi, elle fait des ravages. On suit finalement un groupe qui essaye d'y survivre. On retrouve aussi un élément qui est une infection qui est mise en avant à un certain moment.
Sauf que dans le chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, hein, qui pour moi est un très grand film, The Host, la créature, elle est montrée immédiatement. C'est un film où il choisit justement, il fait le choix de nous faire voir la créature sans suspense aucun. On l'a tout de suite.
Alors que là, comme tu l'as dit, dans Cloverfield, elle est masquée. Et ça a tellement marché que c'est un truc qu'ils reprendront dans le Godzilla de 2016 de Edwards. Et il y a quelque chose qui fonctionne aussi beaucoup dans Cloverfield. Alors, ils ont décidé d'en faire une saga, ce qui fait qu'elle est extrêmement bizarre quand on la prend d'un bout à l'autre. Il y a aussi des fins alternatives dont je n'ai plus de souvenirs. Mais c'est un film qui utilise le found footage pour faire un film de monstre, qui est extrêmement rare. La suite de Cloverfield a la particularité en fait qu'elle n'a pas été pensée comme suite à Cloverfield, et c'est au dernier moment qu'ils ont décidé de l'allier. C'est pour ça que la fin du film est assez bizarre. Par contre, le troisième film est pensé dans la totalité, et comme pour beaucoup de films found footage, finalement on se rend compte que faire un seul film, peut-être, c'est... faut juste s'y tenir.
Le found footage, c'est aussi aventuré dans le terrain du gore, du très gore. Et d'ailleurs, dans les films précurseurs du found footage, dans le genre film flippant, on pourrait citer le Schizophrénia de Gérald Cargol, qui n'est pas un found footage, mais où la caméra elle est placée sur la tête du tueur pendant tout le film, et qui est un film entièrement, comme on dirait aujourd'hui, en POV, en point of view, voilà, qui est totalement effrayant. Bon, là, on a, avec le film de Cédric Dupuis, et qui est disponible chez Asylum, qui n'est pas facile à trouver, avec Making of, un film très, très, très sanglant, on va dire.
Making of de Cédric Dupuis est un film extrêmement gore, très sanglant et dérangeant, clairement à ne pas mettre devant tous les yeux. Alors, le film parle de Cédric Dupuis, un réalisateur ambitieux et mégalomane, qui décide de tout plaquer et d'investir dans une caméra pour tourner le plus grand film d'horreur de tous les temps. Pour cela, il va devoir compter sur ses propres moyens ainsi que sur ses amis à qui il demande de faire les acteurs. Amis qui n'ont bien évidemment aucune formation. Ce n'est malheureusement pas aussi facile que Cédric l'imaginait et il va peu à peu sombrer dans une folie meurtrière à l'égard de son équipe. Il en profitera pour modifier son projet. Désormais, il réalisera le plus grand making-of de tous les temps. Alors, c'est un film français. C'est le premier found footage français que j'ai vu. L'une des particularités, c'est que le personnage principal s'appelle Cédric Dupuis, que c'est également le nom du réal, mais le Cédric Dupuis du film, c'est un acteur qui le joue, c'est pas Cédric Dupuis lui-même. Alors c'est un film, comme j'ai dit, qui est extrêmement gore et malaisant, notamment car on suit le tueur qui tue ses victimes et qui couche avec, de manière très imaginative, que ce soit dans les meurtres ou dans les rapports. Donc attention, ça met en avant un peu de la nécrophilie. Et l'une des grande particularité du film qui fait que je l'aime énormément, c'est son humour noir que je trouve particulièrement drôle. À chaque fois qu'il fait une blague, il me touche et ça me rappelle un autre found footage indirectement qui est C'est arrivé près de chez vous de Rémi Bellevaux, André Bonzel et Benoît Poulvord, qui cette fois est un film belge en noir et blanc et avec lesquels on peut faire quelques liens au final. Alors, Making of, c'est un film que j'aime beaucoup car il détonne par sa violence, il est assez compliqué à regarder entièrement, mais aussi et surtout, comme j'ai dit, pour son humour noir dont la concomitance avec les meurtres est une réussite totale. Il est très peu connu, ce qui fait que c'est un élément rare, comme tu as dit Jérôme, c'est assez dur de mettre sa main sur le DVD, mais c'est mon found footage préféré. Je dirais pas que c'est le meilleur de tous les temps, mais c'est mon préféré.
C'est arrivé près de chez vous, on est plus dans le documentaire quand même que dans le found footage, hein, puisque c'est un vrai faux documentaire sur un tueur en série interprété par, qui vous savez, Benoît Poulvord, hein, dans un sommet de films délirants et aussi de films malaisants, puisqu'il se passe à un moment une scène de viol et d'infanticide qui fait basculer le film dans autre chose et qui là interroge, c'est là que le film est très intelligent, le spectateur sur son rapport à l'image. Jusqu'ici, ça le faisait marrer, alors qu'on voyait quand même un type tuer des gens, quoi. Voilà. Et là, tout à coup, avec un type tuer des gens, avec à chaque fois une petite morale, une petite histoire digne de l'ivrogne en fin de soirée, qui dit n'importe quoi, voilà. Et interprété avec la faconde que l'on sait par Benoît Poulvord. Moi, je voulais... Alors, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, donc, mais je voulais quand même signaler et conclure cette émission autour du found footage, autour d'un film que j'ai découvert d'ailleurs au Festival du film fantastique de Gérardmer en 2012. C'est le film de Joss Trank, Chronicle. Alors Chronicle, pour moi, c'est un des meilleurs found footage des années 2010. C'est un film totalement inattendu et c'est aussi un des meilleurs films de super-héros les années 2010, parce que il aborde les super-héros d'une manière très originale, déjà par la forme, le found footage, évidemment. C'est l'histoire de trois gamins, enfin trois jeunes hommes, quoi, entre 17 et 20 ans, on va dire, des lycéens américains, quoi, qui découvrent une substance mystérieuse, et à son contact, ils vont tous développer après des pouvoirs, et disons qu'il y en a un qui va plus mal le vivre que les autres. Et tout cela filmé à travers des sortes de journaux vidéo intimes qui vont et ça va partir en sucette, quoi. Voilà, dans quelque chose qui rappelle aussi le Akira de Katsuhiro Otomo, dans la manière dont le personnage va évoluer au contact de ses pouvoirs, en tout cas le personnage qui prend on va dire le mauvais chemin. Voilà. Et c'est un film qui a réussi à la fois à parler de ce qu'est en fait le le pouvoir, à quoi ça t'amène ? C'est la fameuse réplique de l'oncle Ben à Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On est là-dessus, mais on est aussi sur l'idée de la portée sociale du pouvoir et de la portée sociétale aussi du pouvoir. Un film sur la maturité aussi, et puis sur la morale, c'est-à-dire... quelle morale on se choisit, est-ce qu'on choisit d'être... Parce qu'après tout, dans les films de super-héros, on voit toujours des gens qui se mettent au service des autres. Mais est-ce qu'on choisit d'être au service des autres ou est-ce qu'on choisit d'être contre les autres ? Est-ce qu'on choisit d'aider les gens ou de les asservir ? C'est comment on est perçu et comment on perçoit le reste du monde. C'est un film, du coup, qui développe, qui est même émouvant, d'ailleurs. Parce que c'est un film où il n'y a pas de méchants, il y a des êtres humains, des personnages très bien écrits, des personnages très complexes, très fouillés. Et qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que ça change dans l'esprit de quelqu'un qui va se retrouver tout à coup à avoir un pouvoir ? Et je trouve que c'est un film qui décrit très bien, c'est un petit film, hein, faut pas chercher à l'intellectualiser plus que ça, mais c'est un film en tout cas qui, à travers le prisme du film de divertissement, décrit très bien ce qu'est la société américaine et comment en vérité ça pourrait se passer pour quelqu'un qui aurait réellement des pouvoirs et pas du tout comme on peut le voir dans les films de super-héros classiques. Là, à mon avis, on est plus proche de quelque chose d'assez réaliste. D'ailleurs, le film a presque un côté naturaliste comme ça, alors que c'est blindé d'effets spéciaux, d'effets numériques et tout, mais ça passe très bien. Voilà. Alors, je voulais vous conseiller ce Chronicle de Josh Trank. On va continuer, Damien, la semaine prochaine de causer Found Footage, puisqu'on ira à la rencontre d'un metteur en scène de Found Footage. Je vous donne quelques indices. Hein. Found Footage français, sorti en 2018. Je ne vous en dis pas plus. Hein, un Found Footage fort sympathique, où il y a un peu de neige et de montagne. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Gamin ! Allez, viens ! C'est pourri, gamin ! Gamin ! Mais viens, là ! Allez ! Tu vas rester seul dans le bois, hein !
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.